Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ambulate in dilectione, marchez dans la charité. Dans ces trois mots tirés de l'Épître, Saint Paul nous donne tout le programme de notre vie chrétienne. Il dit bien ambulate, marcher, c'est-à-dire toujours avancer. Il ne dit pas stater, se tenir debout, ou soyez dans la charité, mais marcher dans la charité. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Abraham, ambula coram me et esto perfectus, marche en ma présence et sois parfait. Et ici, Saint Paul nous rappelle que cet ordre donné par Dieu concerne tout le monde. Ambulate in dilectione, avancez toujours dans la charité. Pour tous, il y a un devoir de tendre à la perfection de la charité. Et pour nous en rendre compte, nous n'avons qu'à examiner le double précepte de la charité, qui, selon la parole de notre Seigneur lui-même, résume toute la loi et les prophètes. Quand les scribes interrogèrent notre Seigneur, quel est le premier commandement de la loi, c'est-à-dire le principal, celui qui passe avant tout le reste. Notre Seigneur leur répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. C'est ce qu'on appelle le double précepte de la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces deux commandements n'en font qu'un seul précepte, parce que l'amour de Dieu inclut nécessairement l'amour du prochain, et vice-versa. Où est la limite à ce précepte? Il n'y en a pas. Ce précepte implique forcément l'obligation d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la perfection, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. C'est assez clair et pourtant certains théologiens se sont trompés à cet égard. Ils prétendaient que le commandement d'aimer Dieu et le prochain s'applique bien sûr à tout le monde, mais que la perfection de la charité consiste en l'accomplissement de certains conseils de charité, comme la chasteté parfaite ou la pauvreté volontaire, des conseils qui seraient quelque chose de supérieur au premier précepte de la charité lui-même. Et alors, tous ne seraient pas tenus à la perfection, mais seulement un petit nombre d'âmes d'élite appelées à vivre selon ces conseils. Mais saint Thomas montre que cela n'a pas de sens. Par le précepte de la charité lui-même, dit-il, nous sommes tous tenus d'une façon générale de tendre à la perfection. Mais notez bien ces mots. Nous sommes tous tenus de tendre à la perfection, pas forcément d'être déjà parfait. Nous y reviendrons. Mais d'abord, saint Thomas explique pourquoi la perfection de la charité ne peut pas consister en la pratique de conseils surajoutés au précepte de la charité. C'est parce que la charité est la fin, le but de tous les autres commandements. Il y a quelques semaines, au dimanche de la quinquagésime, nous avons entendu saint Paul chanter son hymne à la charité. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères, quand j'aurai même une foi jusqu'à transporter les montagnes, quand je livrerai mon corps aux flammes, etc., si je n'ai pas la charité, tout cela n'est rien. Alors si tous ces dons et ces vertus de force, de foi, etc., ne sont rien sans la charité, à plus forte raison, le simple fait de renoncer à une famille ou de se faire pauvre ou d'accomplir matériellement tel autre conseil évangélique. C'est la charité qui est la fin. Tout le reste n'est qu'un moyen pour arriver à cette fin. Or, une fin est voulue sans limite dans sa totalité. Prenons un autre exemple, la santé, la guérison d'un malade. Pour le médecin, c'est son but. Il veut sans réserve la santé pour son malade, son patient. Par contre, les médicaments qu'il utilise ne sont que des moyens pour arriver à cette guérison. Alors là, il veut les utiliser avec mesure. Il veut les utiliser pour autant qu'ils aident, et donc selon un certain dosage, et pas sans réserve. Et c'est pareil pour la charité, et même c'est d'autant plus vrai pour la charité, parce que la charité n'est pas quelque fin intermédiaire qui est elle-même un moyen pour arriver à quelque autre chose, mais elle est la fin dernière, le bien infini, Dieu lui-même aimé au-dessus de tout. Donc, la perfection de la vie chrétienne consiste essentiellement dans l'accomplissement du précepte de l'amour de Dieu et du prochain. La pratique des conseils évangéliques, de pauvreté, de chasteté, etc., cela est secondaire, en tant que les conseils ne sont que des instruments pour écarter tout ce qui peut nous gêner dans l'exercice de la charité, qui elle, est essentielle. Et tout cela est confirmé par le fait que la charité est une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui nous met en rapport avec Dieu lui-même, comme la foi et l'espérance. Dès lors, la charité, ne consiste pas dans un juste milieu entre deux extrêmes, comme les vertus morales qui règlent nos rapports avec les créatures. Par exemple, la tempérance qui règle nos rapports avec la nourriture et la boisson. La tempérance consiste à manger et à boire autant qu'il faut, mais pas plus. Elle évite les excès. Mais la charité est différente. Nous ne pouvons pas trop aimer Dieu. Le précepte est sans limite. Vouloir faire consister les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité en un juste milieu, ça, c'est le propre de la médiocrité, de la tiédeur érigée en système sous prétexte de modération. Plusieurs auteurs spirituels ont longuement écrit à ce sujet. Le père Emmanuel du Ménil-Saint-Loup oppose le chrétien de l'Évangile au chrétien du jour, qui est caractérisé par la médiocrité. Ernest Hello a consacré tout un chapitre de son livre « L'homme » à l'homme médiocre. Voici ce qu'il dit. Il est cité par Garrigou Lagrange dans « Les trois âges de la vie intérieure ». Voici ce qu'il dit. « L'homme vraiment médiocre admire un peu toutes choses et il n'admire rien avec chaleur. Il trouve insolente toute affirmation parce que toute affirmation exclut la proposition contradictoire. Mais si vous êtes un peu ami et un peu ennemi de toutes choses, il vous trouvera sage et réservé. L'homme médiocre dit qu'il y a du bon et du mauvais dans toutes choses et qu'il ne faut pas être absolu dans ses jugements. Si vous affirmez fortement la vérité, l'homme médiocre dira que vous avez trop de confiance en vous-même. L'homme médiocre regrette que la religion chrétienne ait des dogmes. Il voudrait qu'elle enseignât la morale toute seule. Et si vous lui dites que sa morale sort de ses dogmes, comme la conséquence sort du principe, il vous répondra que vous exagérez. Et si le mot exagération n'existait pas, l'homme médiocre l'inventerait. Donc, on n'a pas le droit de se contenter de la médiocrité dans notre charité. Mais d'autre part, il est évident que tout le monde ne peut pas aimer Dieu et son prochain tout de suite de la manière la plus parfaite. Est-ce que cela veut dire que nous transgressons le précepte tant que nous n'aurons pas atteint la perfection? En soi, non, ce n'est pas un péché de ne pas être, de ne pas encore être parfait. Pourvu que nous ayons dès maintenant le degré minimum de charité qui consiste à ne rien aimer plus que Dieu ou autant que Dieu ou contre Dieu. Tant que nous ayons ce degré minimum, nous accomplissons le précepte, mais à une condition importante, que nous tendions vers la perfection. Rappelons-nous les paroles de saint Thomas que nous avons citées plus haut. Nous sommes tous tenus, d'une façon générale, de tendre à la perfection. Sans cette disposition foncière, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de tout notre esprit? La route de l'éternité n'est pas faite pour s'y installer ou pour s'y endormir. Elle est faite pour marcher. Marcher toujours dans la charité. Alors, tirons quelques conséquences de cette doctrine, deux conséquences. D'abord, dans la vie spirituelle, qui n'avance pas, recule. Tout comme un enfant malade qui ne grandit pas normalement devient un nain, un anormal, l'âme qui renonce à faire des progrès devient un nain spirituel. Et puis, deuxièmement, et c'est plutôt consolant pour nous, c'est que si telle est l'élévation et l'obligation du premier précepte de la charité, alors il est certain que Dieu nous donnera progressivement toutes les grâces actuelles nécessaires pour toujours avancer, parce que Dieu ne commande jamais l'impossible. Et puis on pourrait justement peut-être ajouter une troisième conséquence, mais qui concerne plutôt les jeunes présents, qui n'ont pas encore choisi un état de vie. Si de toute façon on est tenu de tendre à la perfection de la charité, toujours avancer, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas choisir un état de vie où on a des moyens pour y arriver plus facilement. Donc, la vie religieuse, avec ses conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Nous avons vu, c'est pas en ça que consiste la charité essentiellement, mais ce sont des instruments pour nous y aider. Donc ça devrait nous faire réfléchir. Alors pour conclure, disons qu'il ne faut pas trop séparer la sanctification du salut. Comme ceux qui disent « Je ne serai jamais un saint, il suffit que je sois sauvé ». Alors là, c'est une erreur. La sanctification progressive est, en toute vérité, la voie même du salut. Renoncer à la perfection, c'est en fait mettre en danger notre salut. Alors demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Demandons-lui de nous donner ce souci de toujours avancer dans la charité, dans la perfection, parce que s'il y a quelqu'un qui l'a fait, justement, toute sa vie, qui a toujours avancé vers la perfection, c'est la Sainte Vierge. Depuis le début de son existence, le premier instant de son existence, jusqu'à son assomption dans le ciel, ne cessez jamais d'avancer de plus en plus vers la perfection. Donc, il pourrait nous donner cette grâce. Demandons-lui tout simplement ce souci de toujours avancer dans la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.